Radio Ondine. Ensemble, on partage la musique. Retrouvez tous nos programmes et actualités sur radioondine.fr. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Radio Ondine, c'est vous qui faites la différence.
Aujourd'hui, donc, on reçoit Pierre-Alain Mouton, un vidéaste qui a fait du mariage un véritable terrain de cinéma. Son truc, capturer l'émotion, raconter des histoires à travers l'image et donner une vraie âme cinématographique aux souvenirs de ses mariés.
C'est gentil.
C'est la vérité. Mais Pierre-Alain, c'est pas juste un mec derrière une caméra. C'est pas que ça. C'est aussi un créateur de contenu ultra actif sur Insta, un mentor pour des vidéastes en herbe et l'hôte du podcast Les coulisses du jour J.
Exactement. Arrête.
Moi j'ai vu ça. J'ai hâte d'écouter. Il a même créé un personnage complètement décalé, Tata.
Madame. Madame a créé le personnage.
C'est Madame qui a créé le personnage. Ouais. Ok. Que je suis aussi sur Insta. Ah, qui, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son contenu. J'aime beaucoup. Qui campe le rôle de Tata. Et qui cartonne sur les réseaux.
Ça marche
bien,
ouais.
C'est Tata qui cartonne.
Ah, j'arrive à la concurrencer même tout seul, mais oui, oui.
Si, t'as fait récemment des trucs pas mal sur l'URSSAF et tout, les charges
celle-là
et tout. Celle-là, elle est folle.
Celle-là va dépasser Tata, mais.
Celle-là, elle est folle, mais ouais. C'est vrai que le personnage de Tata, il fait beaucoup rire, quoi.
Ouais.
Ça match beaucoup vos deux personnages, là. Bah, toi, t'es pas vraiment un personnage, hein, finalement.
Parce que
tu joues ton rôle, finalement.
Du coup, ouais, sur Insta, je fais des petites caricatures de ce qu'on vit sur un mariage ou de notre vie de prestataire ou de notre vie d'indépendant. Et toujours dans la caricature et le second degré.
Dérision et bienveillance. Et beaucoup de bienveillance.
Et du coup, je me moque des tatas qui prennent beaucoup de photos avec leur téléphone avec une coque à clapet. Et c'est ma compagne qui joue ce rôle-là et elle joue un peu trop bien.
Donc, comme tu disais, tu dépeins des scènes folles, souvent, parce que c'est quand même, comme tu dis, un peu caricatural.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est assez fou quand même. De tomber sur ce genre de personnes, et je sais que ça existe.
Enfin, on prend la réalité, on l'exagère au maximum.
Ouais, c'est ça. Mais il y a toujours une base de vérité. Toujours décalé, avec toujours de la bienveillance. Bref, un gars qui ne s'arrête jamais. Ensemble, on va aller plus loin. On va parler de ta vision du cinéma appliquée au mariage, de tes influences, de l'évolution du métier avec les réseaux sociaux. Moi, ça m'intéresse beaucoup.
Okay.
Est-ce que tu mates en ce moment, mais ça, on en a déjà parlé finalement, même si tu peux
j'ai
en parler,
noté des
t'as
trucs.
Il a toujours des choses à dire, c'est très bien. Impeccable, je te réinviterai. Bon, c'est parti. Pierre-Alain, donc t'es vidéaste de mariage, mais avec une approche très cinématographique, c'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter. À quel moment as-tu décidé d'aller dans cette direction en tant que vidéaste?
Alors, quand j'ai lancé la boîte, avant, je travaillais en banque, donc rien à voir.
Ouais.
Mais j'ai fait de la vidéo, j'avais une chaîne YouTube qui a peut-être 15 ans, où j'essayais d'être actif et où j'essayais d'éviter de copier Casey Neistat à l'époque. Mais quand j'ai lancé ma boîte, du coup, je vais faire que de l'entreprise. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que l'entreprise, ça allait être un panier de crabes. Tout le monde allait se battre pour du tarif, etc. Et moi, ce que je voulais, c'est faire des histoires, des vraies histoires, quoi, comme je faisais un peu sur YouTube. Et j'ai découvert le travail de pas mal d'Américains sur le mariage, parce que j'avais un a priori très, très fermé sur le mariage, en mode, c'est des films longs de 40 minutes avec du piano, du ralenti, je veux pas faire ça. Et j'ai découvert le travail de beaucoup de personnes, et je fais, ah ok, donc on peut faire autre chose, on peut proposer autre chose et les gens vont peut-être le recevoir, quoi. Et dès le début, dès le premier mariage, je leur ai dit, je fais des films très courts, 6 minutes, 6-7 minutes, et très écrits. Alors le premier mariage que j'ai fait était moins écrit qu'aujourd'hui.
Forcément.
Mais voilà, je veux qu'il y ait du rythme, je veux pas que ça soit une balade de piano de 8 minutes. Non, c'est, y aura du rire, des larmes, il y aura de l'action, il y aura de l'avancement. Et je l'ai réfléchi comme un film. Aujourd'hui, tu vois un film, n'importe quel film, présentation des personnages, conflits. Déroulement de l'histoire et climax, ben moi je vais faire pareil, mais sur un mariage. Voilà.
Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir ta vision de la chose, parce que quand j'ai voulu t'inviter, on m'a dit, mais tu devais pas inviter des gens, genre des acteurs, des réalisateurs, etc., des gens qui travaillent dans le milieu. Toi, t'es un prestataire, on est d'accord, mais qui a une vision, mais tellement dans le cinéma. Parce que moi, ce que je vois, c'est un réalisateur, en fait. C'est presque un court-métrage que tu fais.
Bah, j'essaye de...
Ah, c'est gentil. Tu comprends ce que je veux dire, mais c'est ça, c'est vraiment ça, en fait.
Bah, le but, enfin, c'est quand je le fais, pour de vrai, c'est que je me dis, demain, le film, je l'ai fait, je le montre à ma voisine. Littéralement, je le montre à ma voisine. Et elle doit être prise dans l'histoire et le regarder jusqu'au bout. Et mon but, c'est que la personne le regarde jusqu'au bout. Si tu fais 40 minutes de bout à bout... Bah, tu vas le montrer aux mariés, ils vont être hyper heureux, c'est leur journée. Mais moi, mon but, c'est, ok, demain, je te le montre, est-ce que tu vas être accroché? Et pour ça, bah, c'est du storytelling, c'est se rapprocher au max du ciné ou des séries, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est franchement, enfin, moi j'adore. Et justement, on associe souvent le film de mage à une simple captation de l'événement. Il y en a beaucoup qui font ça.
Ah,
qui viennent avec des caméras, arrivée de la mariée, arrivée du marié, échange des consentements, les alliances, etc., etc. assez basique finalement. Je mets en place un peu de transition, un peu de musique un peu entraînante et dynamique. Et ça s'arrête là.
Bah, et puis il y a des clients pour ça et des gens qui sont.
Il y en a, bien sûr,
qui prennent du plaisir pour ça.
Donc toi, tu cherches à raconter, comme tu disais, des vraies histoires avec une mise en scène qui est travaillée, parce qu'il y a une vraie mise en scène. C'est ce qui te différencie finalement des films plus classiques, comme on dit, d'un film de mariage. Est-ce que toi, parce qu'on sait qu'un mariage, tu as beaucoup d'imprévus, tu sais pas finalement, les mariages te donnent une trame, je suppose, de la journée.
Ouais.
Enfin, de à peu près ce qui va se passer.
Ouais, t'as les horaires, cérémonie, préparatif, discours. Moi, je demande, c'est principalement les discours.
Ouais.
Parce que je porte une grande attention au son, parce qu'il y a beaucoup de dialogues dans mon film. Donc, il faut que le son soit nickel, donc il ne faut pas que je sois pris au dépourvu.
Pour te préparer en amont.
Ouais, donc je demande principalement, moi, les discours. Après, la trame de la journée, techniquement, c'est souvent la même. Donc, les horaires conviennent, mais surtout les discours qui m'importent. Ouais.
Et comment, toi, t'arrives à... Parce que là, tu ne peux pas scénariser. Tu vois ce que je veux dire?
En fait, si. Parce que, en gros, mon approche, c'est... Donc, j'ai commencé cette approche-là l'an dernier. Et cette année, ça va être que ça. C'est que je rencontre les gens avant, les mariés avant. Et en gros, comme tu disais, on va sur le lieu de leur histoire. C'est, je demande un lieu qui les marque. Donc, ça peut être le premier date. Ça peut être là, bientôt, je vais dans le lycée de leur rencontre.
Ouais. Ouais, j'ai vu, c'est cool ça.
Hier, j'étais sur la plage où ils se retrouvaient étant ados pour se cacher parce que les darons ne voulaient pas qu'ils soient ensemble,
c'est
en
mignon.
Gros. Et en fait, on va là et je leur mets juste un micro chacun. Parlez, mais vraiment parlez entre vous. Ne parlez pas à moi, parlez entre vous. Et de la veille de votre rencontre, que vous faisiez, quel état d'esprit, à aujourd'hui, sur cette plage. Racontez-moi tout ce qui s'est passé. Et je pose quelques questions pour creuser. Et c'est en fait, en faisant ça, avant le mariage, j'ai potentiellement la trame du film et je pourrais presque faire l'audio du film avant d'avoir filmé le mariage.
En fait, tu fais presque un travail de journaliste, en fait. Parce que tu creuses leur histoire. Ouais. Et ça va, toi, te permettre, finalement, d'étoffer avec l'image. En fait, ton image, elle sert qu'à étoffer les dires que tu as pu avoir, en fait.
Bah plus peut-être documentaire, plus je dirais.
Oui. Oui.
Où en fait j'utilise beaucoup les quand je raconte la rencontre, c'est en mode documentaire, c'est les backstories, donc qui sont les personnages pour qu'on s'attache à eux, quoi.
Ouais.
Et c'est plus de, ouais, plus je m'inspire beaucoup plus de la trame d'un documentaire
que d'un film.
Bah en fait c'est plus facile quand même.
Bah oui.
Pour un film de mariage. Mais en fait celle-là, bah par exemple les deux l'an dernier qui représentent vraiment mon travail, j'avais, je pense, la trame avant d'aller sur le mariage, quoi.
Ok.
Et le but de cette balade, pour finir, c'est... je leur pose deux, trois questions quand même. Par exemple, l'an dernier, il y a un film où... pour dire que c'est vraiment un peu... on s'éloigne du mariage, ça peut parler des parents qui sont partis. Et il y a Pauline, du coup, une des mariées. Son papa est vietnamien, il vient du Vietnam. Et malheureusement, il n'était pas au mariage parce qu'il nous a quittés. Enfin, il les a quittés, c'est pas mon papa, parce qu'il est décédé, je vais la refaire. Son papa n'était pas là parce qu'il, malheureusement, est décédé. Et du coup, elle disait, on est retourné au Vietnam parce que ça me tenait à cœur. Et après, on est parti en Italie et après, on a fait ça. Et du coup, j'entends, donc j'ai mon petit casque, je les entends. Et je fais, est-ce que tu peux me dire pourquoi c'était important de partir au Vietnam? Et là, 10 minutes sur, mon papa vient de là-bas et on est retourné sur les traces de la famille, etc. Et ça, c'est un moment fort, c'est leur histoire. Et son conjoint, Rémi, qui l'a aidé dans la maladie de son papa, etc. Et ça prend une partie du film. Ça prend 45 secondes d'une scène. Mais c'est leur histoire. Et en faisant ça, je vais beaucoup plus loin que de dire « Samedi dernier, c'est passé ça. » Non, c'est ces personnes-là, c'est ça. Et voilà ce qui leur est arrivé. Donc ça me permet d'aller plus loin. Et après, j'utilise quand même les discours, les images.
Ouais,
de
les
journée,
amis,
etc.
Les témoins, etc. Ou les parents. Les leurs, principalement.
Ouais, beaucoup les leurs, parce qu'après, je livre quand même les discours à part pour pas qu'ils soient frustrés. c'est normal.
Ouais.
Mais beaucoup à leurs discours, ou alors les discours des amis qui s'y retracent un peu l'histoire et qui racontent des anecdotes ou des transitions sympas.
Ok.
Qui peut faire une transition entre deux scènes, mais voilà. J'imagine les films comme un film de cinéma ou de documentaire avec des scènes très précises. Du rythme, du rire, des larmes, de l'avancement dans la journée.
Ouais.
Comme n'importe quel film, quoi.
Avec le climax et tout, et
ouais,
la compagnie, quoi.
Exactement.
Vraiment la vraie, genre la vague, quoi. Enfin,
c'est la
vraie structure d'un film,
ouais,
en fait.
C'est ce que j'essaie de faire. Plus en rajoutant le côté backstory des documentaires.
Ouais.
Pour qu'on
Mais
s'attache aux gens, quoi.
C'est ça, moi, qui me plaît dans ce que tu montres, tu vois, en tant que professionnel, quoi. Ce côté où c'est pas juste la journée.
Ouais.
Il y a tout, tu sais, t'amènes ça. tu sais, gentiment, le truc et tout, justement avec le fait qu'ils racontent leur histoire un peu, le commencement, tu vois des images, de la préparation en même temps, etc. Enfin, tu vois, c'est, y a vraiment, on sent une vraie recherche en fait. C'est très cinéma, c'est pour ça que je voulais que tu viennes en parler en fait. Et justement, c'est quoi qui t'a influencé toi en tant que filmmaker? Parce que t'es plus un filmmaker, même presque un cinéaste en fait, que juste un vidéaste de mariage finalement. C'est quoi qui t'a influencé toi?
Beaucoup les documentaires sur la structure un petit peu quand même. C'est bête, mais un documentaire de Netflix sur les pizzas.
Ok.
Et celui-là, le storytelling, il est incroyable parce qu'en fait, tu dis ça parle de pizza, ça parle de la vie du gars, ce challenge, les conflits familiaux qu'il aurait pu avoir. On parle de pizza à la base, hein. Des conflits familiaux, de pourquoi il veut être le meilleur. Et en fait, c'est juste la structure. Le fond, on s'en foutait. C'est juste la structure. Donc ça, ça m'inspire quand même beaucoup.
Ok.
Et après, c'est beaucoup des... Alors, pas les films en entier, mais beaucoup des scènes précises.
D'accord.
Où je me dis, ah ouais, là, ils sont...
Là, okay, c'est fort.
Ouais, c'est fort. J'ai compris pourquoi. J'adore Nolan quand il filme les gens de dos.
Ouais.
Et en fait, dans chacun de mes films, il y a les mariés de dos. Un moment ou un autre.
Mais ça, je suis assez... Ouais. Nolan, il est très fort. C'est un de mes réalisateurs
préférés. Ouais. Mais,
j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein.
Tom Hardy dans Dunkerque, qui regarde son avion... Heath Ledger dans Batman, il est de dos et c'est la personne est de dos et ça a tellement de force.
Beaucoup,
ouais.
Très impactant visuellement.
Et donc ça dans chacun des films.
Je la mets.
Il y a quelqu'un de dos et puis après c'est La Colo. J'aime bien La Colo de Fincher, mais je vais pas aussi loin dans le vert. Mais j'aime bien ce type de colo de temps en temps aussi. Mais sinon, ouais, c'est beaucoup des scènes.
Plutôt des scènes, ouais. C'est des scènes de films qui t'ont inspiré et que tu essayes de. Pas de calquer, mais tu t'inspires de ça.
Pas de calquer parce que tu peux pas, quoi. Mais il y a une scène de Whiplash où.
Ce film est juste une tuerie. Bref.
De Whiplash où le. J'ai pas le nom de l'acteur, je suis désolé, qui a gagné l'Oscar d'ailleurs, mais qui joue le chef d'orchestre. Et il y a juste sa main et ça passe de sa main à sa tête. Il y a la caméra qui tourne et là tu te prends une claque, tu fais bon, on va essayer de refaire un peu ça à ma manière à un certain moment, si je peux le caler, etc. Mais beaucoup, il y a des moments comme ça où j'essaye de me dire si j'y pense, si je peux le faire,
je le cale. Quoi.
Je vais tenter un truc. Et puis après, l'histoire, c'est l'histoire des mariés que j'ai.
Ça tu peux pas trop après y toucher. Mais
des petits trucs de mise en scène, on est petits à côté des grands, donc. Mais les gens de dos, Christopher Nolan.
si tu nous entends, Christopher.
Il va pas m'en vouloir.
Pas du tout. En règle générale, les gens qui regardent des films, ils savent que le son, la musique est extrêmement importante.
Ouais.
Le sound design aussi, de plus en plus. C'est des métiers qui sont de plus en plus mis en avant dans les métiers du cinéma, surtout les sound designers. Qui est vraiment un truc qui est assez compliqué quand même à gérer. Toi, t'es plus, quand t'as fini de filmer, tu sais déjà quelle musique tu vas mettre?
Non.
Ou c'est vraiment au feeling du moment?
En fait, je vais monter en gros, j'écris, je monte scène par scène, à peu près, après je refluidifie tout ça, et après je me dis, ok, cette scène-là, elle doit m'apporter, si je la regarde sans musique, elle m'apporte quel type d'émotion, et je choisis juste une musique qui doit l'accompagner.
Donc, tu es plus vraiment au fait. Est-ce que tu as genre une banque. Parce que, tu vois, par exemple, moi, quand je vais faire des vidéos, je sais quel style de musique je vais mettre.
Non.
Pas forcément l'auteur, enfin, pas forcément l'artiste, même si très souvent, on a souvent des artistes qu'on aime plus que d'autres. Mais je sais vers quoi je tends.
Ouais.
Tu vois. Est-ce que, toi, juste l'émotion, et après, c'est. Tu lances de la zik et tu sélectionnes comme ça.
J'ai ma plateforme, donc je vais sur MusicBed.
Ok.
Plateforme musique libre de droit. Et j'en ai fait plusieurs et je trouve que c'est la plus fournie, surtout en mode cinématographique, pardon. Y a beaucoup de musique ambiante et j'aime bien la musique ambiante. C'est des musiques assez douces, mais qui amènent juste la bonne émotion.
Okay.
Et moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner. Donc, à part le climax, tu n'auras jamais de musique qui va prendre le dessus, mais juste une musique qui accompagne ce qui va être dit.
Okay.
Je pense que j'ai dû passer le maximum un jour, c'est 2 jours pour trouver une musique. Mais c'était très long. Et sinon, dans la fin, j'ai souvent une musique, j'aime bien les petites musiques électro, mais qui montent doucement et qui pètent.
Ok.
Mais pas électro au club. Électro au ciné, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Comme Rhône.
Ouais.
Le DJ lyonnais, Rhône, qui fait beaucoup de musique de films et de séries. Et lui, j'essaye de trouver des musiques un peu dans son style-là, qui montent tout doucement pour... Ça monte.
Et là, ça libère. Pète,
ouais.
Ok. En ce moment, on va parler de ce que tu regardes en ce moment. C'est moi, ça m'intéresse. Est-ce que en ce moment tu regardes un film en particulier ou une série qui t'a marqué?
Qui m'a marqué, ouais.
Mais là, ouais. Quoi?
Je viens de la finir.
Ok.
Succession.
D'accord.
T'as pas vu?
Alors j'ai commencé à regarder. Alors, en fait, je suis sur plein de séries en même temps. J'ai du mal à me fixer.
Du coup, moi, j'ai tout mis en stand-by pour Succession. J'avais commencé Pingouin, j'avais commencé Euphoria, et maintenant que HBO Max est arrivé en France.
Ouais.
Alors je trouve, hein, c'est mon avis, mais que HBO a les meilleures séries qui ont jamais été faites presque. Et Succession, c'est l'histoire d'un mania des médias, un des hommes les plus riches des États-Unis, et ses quatre enfants qui veulent prendre sa
l'héritage.
Succession. Même pas son héritage,
sa succession à la tête de l'Empire. Ouais.
Et le père qui est une pourriture son nom, et qui est un homme politique, et ses enfants, il considère ses enfants, non, vous êtes rien. Et c'est incroyable. Et c'est juste de l'écriture. C'est juste un épisode te capte, il n'y a pas d'explosion, il n'y a rien. C'est juste des gens qui ont une histoire et qui veulent... Des enfants trop greedy, désolé. Ouais. Oh, j'ai le terme anglais, c'est une catastrophe, je suis vraiment désolé. Qui sont un peu avares, quoi. Ils veulent vraiment l'argent, et le père qui ne veut pas lâcher le trône.
Ils sont intéressés, ouais. Quoi. C'est que des relations intéressées.
Et cette série-là, il y a 4 saisons, et saison 2, 3, 4 a gagné Golden Globes et Emmy des meilleurs acteurs, de meilleures séries. C'est avec Kieran Culkin qui a gagné le...
Oui, là, il n'y a pas longtemps.
Qui a gagné un Oscar récemment.
Ouais.
Avec...
Le frère de Michael pour ceux qui ne savent pas, celui qui faisait Maman, j'ai raté l'avion.
Et puis, tous les acteurs sont incroyables.
Qui joue aussi dans Maman, j'ai raté l'avion, d'ailleurs.
Ouais, qui joue le petit à lunettes,
c'est
le
ça.
Petit blond à lunettes.
Qui arrête pas de boire du coca et qui fait pipi dans son lit.
Exactement. Donc, dernière série, celle-là. Et là, je suis dans Severance sur Apple TV.
Ouais, moi, j'ai pas Apple TV.
Avec MyCanal, j'ai même Apple TV. Donc, là, c'est ces deux-là. Vraiment en ce moment où... Et un peu... Ouais, Pingouin un petit peu vite fait, mais Euphoria aussi.
Ok. Ça a beaucoup marqué comme série. Ouais. Il y a eu beaucoup de gens qui en parlent. C'est une série qui a fait beaucoup le buzz. Énormément même.
Ouais, avec Zendaya.
Ouais, qui est une très grande actrice. Ouais. Vraiment, vraiment très très grande.
Ouais.
Là, qui était récemment dans le... celui qui a remporté...
Avec Dune.
Déjà oui. Mais là, elle était dans celui
Challenger.
De... qui vient de remporter un César aussi de Audiard.
Non, elle est pas dedans.
Elle est pas dans celui d'Audiard.
Non, Emilia Perez.
Ouais.
Non.
Ah, je croyais qu'elle était dedans.
Non, c'est Selena Gomez.
Ah, si, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais ce qui n'a rien à voir parce que. Mais, non, je croyais que c'était Zendaya justement.
Non.
J'allais me dire, on la voit partout. Elle a réussi à sortir du cycle Marvel parce qu'elle est chez Marvel, Zendaya.
Elle était chez Disney.
Elle a été chez Marvel. Elle a fait. Elle a fait la. C'est comme ça qu'elle a rencontré Tom Holland.
Ah oui, elle a fait la.
Sa copine dans Spider-Man.
Ouais, sa copine dans Spider-Man, ouais. Mary Jane.
C'est ça. Non, pas c'est pas Mary
MJ.
Jane.
Non,
c'est
pas MJ.
Non, alors c'est MJ, mais c'est Michelle. Je ne sais plus quoi. Et justement, ce n'est pas Mary Jane Watson.
Ok.
On va la retrouver, Mary Jane Watson d'ailleurs, dans le Spider-Man 4 qui arrive.
Ok.
Avec Tom Holland, où là, il y aura vraiment Mary Jane Watson, celle qu'on n'a toujours pas vue, même s'ils ont repris juste les initiales.
Ah.
Parce qu'elle se fait appeler MJ, mais c'est pas MJ.
Ok.
C'est pas Mary Jane.
Ouais, bon. On va dire que c'est pas.
C'était le petit. Mais elle a réussi à sortir de sa condition de pas de star Disney, parce que c'est pas une star Disney, c'est pas vrai, c'est pas non plus une star Marvel.
Non.
Mais elle avait un impact et elle campait des personnages qui étaient pas juste des petits rôles, qui étaient quand même souvent des rôles majeurs dans le film.
Ouais.
Et là, elle est partie sur quand même d'autres choses qui lui correspondent, je trouve. Puis elle vieillit aussi, hein, donc je pense qu'aussi, elle, en tant qu'actrice, a envie de voir autre chose.
Faire autre chose et un peu d'indépendant aussi.
Ouais, que du familial et de l'action.
Donc ça, et en français, parce qu'on a beaucoup de séries, mais en français, D'argent et de sang sur MyCanal.
Ok.
Avec Vincent Ladon, avec Neil Schneider et Ramsey.
Avec Ramsey Bedia.
Et sur l'arnaque taxe carbone.
Ah ok.
Et
d'accord.
Très très bonne série, 2 saisons. MyCanal, très bonne série. Ouais.
Bah c'est pas un peu comme le film Carbone justement.
Et
c'est pas la même histoire.
C'est la même histoire, sauf que c'est la vraie histoire.
Le film Carbone. Oui, parce qu'il était scénarisé, enfin très romancé.
Le film
romancé.
Carbone, c'est beaucoup trop romancé. Là c'est la vraie histoire. Si tu écoutes la vraie histoire, c'est très très vraiment très 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 proche. Ouais.
Ok, ouais. D'accord. Donc toi, tu conseilles d'aller regarder ça?
Ouais, ouais, cette série-là, okay. Ouais. Mais regarde Succession avant.
Ok. Tac, tac, ça c'est bon. Aujourd'hui, donc, en plus de ton travail de vidéaste, de filmmaker même, tu es très actif donc, sur Instagram, où tu proposes des contenus qui cassent les codes traditionnels du mariage, qui montrent vraiment une autre facette. C'est notamment le cas avec ton personnage donc, de Tata. Peux-tu nous expliquer d'où vient cette idée et c'est quoi que tu cherches à raconter avec ce format?
Alors du coup, je cherchais, allez, ça fait un an presque maintenant qu'on a commencé les vidéos. J'essayais de montrer mon métier de vidéaste, cinéaste, comme tu dis, c'est très gentil de dire ça d'ailleurs, mais de vidéaste. J'expliquais un peu le storytelling, les discours, comment j'utilisais et tout. Et puis un jour, je voulais juste, en gros, faire passer un petit message. Quelqu'un qui te dit, j'aime bien ton film, c'était la première vidéo qui a percé, on va dire. J'aime bien ton film, t'as quoi comme caméra? Et je voulais dire, en gros, et en fait, toute la vidéo, c'est je vois un tableau et je dis, ah, il est très beau ce tableau, elle devait avoir un bon pinceau, etc. Le cuisinier, il a un bon four. Et la vidéo a popé. Et je fais, au bout d'une semaine ou deux, je fais à Noémie, je fais, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Donc Noémie, comme, c'est ta compagne qui, pardon, incarne, ouais, qui incarne ouais, Tata.
Je fais, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché qu'on peut refaire, quoi? Et là, la deuxième, c'était, est-ce que c'est votre vrai métier? Et là, elle joue dedans. Et du coup, en fait, et ça a repris. Et je fais, vas-y, on va rester sur ce côté stéréotype, préjugé. Et après, on s'écarte un petit peu, mais on a beaucoup caricaturé un peu les tatas. Même nous, moi, je caricature aussi les prestataires de mariage, notre vie sur Instagram, etc. Et ça a vraiment beaucoup pris. Et elle a campé le rôle de la tata un peu insupportable qui veut te donner des conseils pendant les mariages, qui vient devant nous pour nous empêcher de travailler, pour prendre sa petite photo qu'elle ne regardera jamais.
C'est ça, voilà. Ouais, c'est ça en plus.
Donc,
c'est ça,
donc ouais, elle a... Mais toujours, elle compte toujours ce rôle.
Ouais, et mais puis, c'est marrant.
Et le but premier, c'est de s'amuser. Et en fait, quand t'es pris dans ce un peu tourbillon, entre guillemets, que ça prenne, en fait, ton cerveau, enfin, c'est vrai, hein, mais ton cerveau est toujours en train de, ok, qu'est-ce que je pourrais prendre de nouveau.
Mais c'est pas un cercle vicieux, justement. Parce que t'es quand même, à la base, c'est pas ton métier.
Non, mais je
prends faire plaisir, de l'influence.
Je me considère pas du tout comme ça, mais.
En fait, à partir du moment où t'as des vidéos qui pop à fond, ouais. Et tu buzzes un peu. J'ai vu récemment aussi qu'il y a des gens qui se sont inspirés de tes contenus et très largement inspirés.
J'ai dit que le sujet était court.
Mais non, mais c'est important, on n'en parlera pas. Mais j'ai juste qu'à partir du moment où ton statut va au-delà de juste, t'es un filmmaker qui présente son travail, quand tu commences à être repris, à être republié par des gens qui republient tes vidéos en story, machin, etc., etc., t'as une influence. Ouais. T'influences les gens d'une certaine manière. Même ton travail, ce que tu montres, tu vois, ça va forcément influencer d'autres qui vont travailler en disant putain, pardon, je suis vulgaire, désolé. Dis donc, ça, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je vais essayer de m'en inspirer. Je vais essayer d'aller dans pas faire du pareil, mais aller dans le même chemin, tu sais, de travail.
Ouais.
Tu vois, faire quelque chose de plus construit et pas juste plein de mouvements de caméra de fou malade, des confettis, de la musique de, tu vois.
Il y a une fois des confettis, mais on fêtait le nombre d'abonnés.
Mais tu vois ce que je veux dire.
Mais ouais. Non, c'est pas un cercle vicieux parce qu'on prend toujours du plaisir. Et les seules fois où je me suis forcé à faire une vidéo, elle a jamais marché. Donc
tu t'es dit, faut pas que je me force.
J'ai dû faire deux fois. Je fais absolument que je fasse un truc et c'était nul. Et j'ai sorti et ça n'a pas du tout pris, du coup, évidemment. Donc non, ça me fait plaisir. Mais par contre, c'est vrai que le cerveau... je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que je pourrais avoir comme idée maintenant, et en fait je note beaucoup, et le fait de noter, ça me décharge, et je fais quand le moment sera venu pour y réfléchir, je vais me reposer, quoi.
Ouais, au moins t'as tout qui est posé.
Mais par contre, non, tu vois, quand je me lance dans un film de mariage, je suis tellement focus dessus que je pense pas trop à grand chose d'autre. Et je me garde quand même un tout petit créneau pour faire mes vidéos, parce que maintenant il y a le petit rituel. Mais non, tant que ça ne devienne pas maladif et que je sois sur les stats toutes les 5 minutes.
Ouais, tu dis ça va, quoi.
Franchement, ouais.
C'est plus la récréation sur le travail.
Ouais,
que,
s'amuser. Et comme tu disais, toujours de la bienveillance. On a 3 règles d'or. Ne jamais copier. Ne jamais faire de trend. Et surtout, ne jamais parler du budget des mariés. Alors, ne jamais parler des mariés, se moquer d'eux. Mais surtout, ne jamais parler de leur budget. Parce qu'une fois, j'avais eu l'idée des gens qui comparent. Entre deux, j'ai vu la même chose à moins cher.
Ouais, mais ça, c'est partout. Ça.
Ouais. Et en fait, c'était très difficile à trouver. Et en fait, en discutant avec Noémie, c'est vrai que en fait, même des personnes qui vont payer 500 euros en photographe, c'est peut-être un budget énorme pour eux. Et je veux pas du tout viser ces gens-là.
Ouais,
c'est vraiment pas le but.
Qu'ils le prennent mal.
Et je me suis dit, c'est trop touchy, donc jamais parler d'un. Ça, c'est la règle.
Mais t'as raison, parce que c'est les décrier eux aussi.
Ouais.
Enfin, tu sais, même si tu pars d'un bon sentiment, ça peut être hyper mal perçu, en fait.
Ouais.
Et,
exactement.
Ouais, je suis assez d'accord avec. Vous avez bien raison. Donc, en fait, de rester dans cette ligne de conduite.
Après, j'ai fait une vidéo, comme je disais, sur l'URSSAF, où il y a la team premier degré de LinkedIn qui est arrivée et qui m'a attaqué.
Les commentaires, trop drôles, quoi. Trop drôle.
Donc, mais moi, j'ai beaucoup de recul.
Ta vidéo était tellement marrante.
Et
tellement marrante.
Petite référence à Maman, j'ai raté l'avion à la fin, où je fais le cri de Marty McFly.
De Macaulay Culkin.
Et j'ai fait une vidéo où j'ai repris une petite référence à Marty McFly, où j'ai fait le doc.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est vrai, c'est vrai.
Des petites références comme ça. Mais voilà, la règle, c'est vraiment de ne pas s'attaquer au marais, parce qu'il n'y a aucune raison. Moi, je caricature des situations de mariage, mais jamais attaquer les gens pour le prix, pour le budget, etc.
Ouais, ok. Dans tes vidéos, donc ça permet aussi de transmettre aux autres vidéastes ce qui peut se passer dans les mariages, même si tu caricatures. C'est quoi qui t'a... Parce que, en fait, j'aimerais partir sur le sujet de ton monitorat.
Ouais.
Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de transmettre après tous les films que tu as pu faire. T'as pas fait d'école de cinéma.
Non.
Tu t'es auto-formé, je pense. T'as appris sur le tas, par passion, comme beaucoup, en fait, finalement.
Comme les photographes, beaucoup de photographes.
On est très peu à venir d'une école d'art ou une école de cinéma, de venir de Paris, parce que les grosses écoles de cinéma, c'est à Paris, etc. Enfin, voilà. C'est plus des passionnés qui se lancent dans l'aventure, plutôt, que de gens qui viennent d'un cursus scolaire. Qu'est-ce qui, toi, t'as dit, tiens, vas-y, moi, j'ai envie d'accompagner d'autres comme moi qui se lancent ou qui veulent se lancer.
Ouais.
C'est quoi qui t'a donné envie?
Déjà, avant d'être indépendant, je travaillais dans une banque et j'ai fini formateur. Donc, pendant plus d'un an, j'ai formé une bonne partie des collaborateurs de l'entreprise.
Okay.
Et sous un format assez nouveau, et j'avais vraiment adoré. Et quand j'ai lancé l'entreprise, je fais OK, je sais que. Tôt ou tard, je le ferai. Et ça a pris, je pense, j'aurais peut-être pu attendre encore un an.
Plus tôt que tard, tu veux dire.
Ouais, ça a pris plus tôt que tard, ouais. En fait, dans la tête, je fais dans un an, je sais pas pourquoi, mais dans un an, ça y est, j'y m'y mets. Et en fait, je commence à avoir beaucoup de demandes, et je fais allez, je vais cadrer le truc. Et donc, j'accompagne sur. Alors, les vidéastes, j'ai commencé comme ça, les vidéastes sur le storytelling.
Qui est pour moi, je trouve, le plus important.
Ouais.
Chez un vidéaste, à travailler.
Donc ceux qui veulent s'éloigner de la trame chronologique des films de mariage. Et en fait, après, j'ai ouvert à tous les autres prestataires de mariage, je reste que dans le mariage, sur la partie entrepreneuriat. Parce que moi, je viens du commerce, c'est con, mais je viens du commerce. Et énormément de personnes ont le talent, la fibre artistique, mais pas la fibre commerciale.
Oui.
Et en fait, vont beaucoup se reposer sur une plateforme qui vous fait payer une blinde.
Pour ceux qui suivent Pierre Alain, ils savent très bien de quelle plateforme on parle.
Donc une plateforme, un annuaire en ligne, etc.
Spécialisé dans le mariage.
Voilà, on le connaît. Et en fait, qui veulent potentiellement soit s'en détacher ou alors essayer de faire sans pour arrêter complètement de les payer. Et c'est comment je trouve mes clients, comment je développe mon entreprise. Donc ça, c'est cette partie-là aussi que j'accompagne. Et après, sur la partie réseaux sociaux aussi, sur comment communiquer sur les réseaux, etc.
Qui est devenu hyper important parce que c'est devenu un peu maintenant la vitrine de ce qu'on fait.
Bah, beaucoup, ouais.
Tout le monde passe par ça. Tu vois, il y a peu de temps, j'ai interviewé un artiste qui s'appelle Léman, qui est un artiste pop-rock français qui a été découvert sur les réseaux.
Ah.
Il vient des réseaux sociaux.
Ouais,
c'est comme ça qu'il a été découvert. J'ai appris que la Warner, donc lui, il a signé chez Warner il y a pas longtemps, ils ont une entité exprès pour ça.
D'accord.
Ils ont créé une entité.
Pour détecter les talents ?
Via les réseaux sociaux. Les trends qui cartonnent et tout, etc.
Comme Angèle, non ? Si je dis pas de bêtises.
Angèle, je sais pas si elle était. Elle, le problème d'Angèle, en fait, c'est que. Elle a été découverte sur les réseaux sociaux, mais elle a un passif. Parce que son frère est connu.
Ouais.
Et a déjà une carrière.
Ouais.
En Belgique, même en France, qui est un très grand rappeur connu. Son père.
Oui,
aussi,
oui
dans
la
musique.
Famille qui était.
Elle vient pas d'un milieu autre que artistique en fait. Si tu veux, elle a jamais voulu mettre en avant ça, côté familial connu, mais il y a quand même ça malgré tout.
Ouais.
Mais genre donc Warner a fait ça par exemple, tu vois,
okay.
pour détecter sur les réseaux sociaux.
Ouais. Donc ouais, cette partie-là aussi, ouais, du coup, sur alors se développer, mais avec ses propres idées, ses propres valeurs, et essayer d'avoir un personal branding, on va dire,
ouais,
sur les réseaux, et être connu, et puis bah, capter son audience, et puis avoir un peu plus d'engagement sur les réseaux, quoi.
Ok. Et donc, en plus de tout ça, comme on en parlait au tout début, quand je t'ai... J'ai fait un peu tirer ton portrait avant de commencer cet entretien. Donc, tu as aussi un podcast,
ouais.
Les coulisses du jour J.
Ouais.
Le gars qui est un peu hyperactif quand même.
Voilà, il est resté un peu en stand-by, mais il reprend.
La multicasquette. Donc, où tu échanges avec d'autres professionnels du mariage.
Ouais.
D'accord. Par contre, exclusivement du mariage.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce projet-là?
C'était il y a un an et demi maintenant, un peu plus d'un an et demi. Alors, j'ai toujours voulu faire un podcast. Je ne sais pas pourquoi. J'écoutais beaucoup de podcasts criminels. Mais je ne peux pas faire un podcast criminel. Et en fait, c'est juste, un jour, je me suis dit, mais juste les prestataires de mariage, leur parcours, quoi. Ça devrait intéresser les autres parce qu'on est tous dans notre coin, tout seul.
C'est vrai.
Il y a beaucoup, il y a des blogs qui existent pour les découvrir. En audio, il y en a un qui existe, mais c'était très partie business. Là, je suis juste, on discute, c'est chill, on discute du parcours, de la vision, etc., quoi. Donc, c'est venu comme ça. Le jour même, je pense que j'ai acheté tout le matos. Et après, j'ai lancé toutes les invites. Et dans ma tête, je fais une fois par mois, une fois par semaine, tous les samedis, comme ça, les prestataires, ils vont en mariage, ils écoutent le podcast.
Sur la route, et tout. Dans la voiture.
La saison des mariages a repris, autant dire que le rythme...
C'était pas la peine.
Après, les réseaux ont pris, donc ça a été compliqué. Mais là, ça reprend, donc... Et grâce à avoir un peu agrandi la communauté, on va dire, sur Instagram, je suis en contact avec beaucoup plus de personnes et ça reste moins périphérie de Rennes ou Bretagne. Là, c'était un photographe de Biarritz, bientôt c'est
un... Tu t'exportes un peu.
Ouais, quoi. Voilà.
Ça, c'est chouette.
Ouais,
un duo. Ça t'ouvre le champ des possibles, quoi.
Ouais. Donc, le but, c'est vraiment le parcours de chacun, de chaque prestataire. Okay. Comment il en est arrivé à la photo, pourquoi il a sauté le pas. Un petit peu ses idées sur l'entrepreneuriat, comment trouver ses clients, etc. La vision du métier. Et puis on parle d'anecdotes, on essaye de rigoler.
Discussion.
Discussion entre une heure et demie de podcast à chaque fois. Les gens apprécient parce qu'ils se retrouvent dedans et ils se sentent moins seuls, quoi.
Ok. Et avec tout ça, tout ce que tu fais, donc tu es un peu à la croisée des chemins parce que tu fais plein de choses. Tu multiplies un peu les supports où tu es présent, ouais. Où tu transmets des choses. Est-ce que tu te vois aller plus loin encore
dans
ton esprit à toi, des masterclass ou peut-être même écrire un bouquin? Ça se fait de plus en plus,
écrire un bouquin, j'aurais jamais la patience.
Non, mais tu sais, sur la technique,
mais oui,
tu vois, sur pareil, la partie business, ouais. L'accompagnement, machin. Pas forcément trop en dire, mais aussi passer sur ce support-là, tu vois.
Bientôt, je sais pas si ça s'appelle masterclass, mais j'ai été invité à... Ils appellent ça une masterclass. J'ai été invité à un réseau pro parisien de prestataires de mariage pour intervenir.
Donc, tu fais une conf?
C'est en visio, donc c'est différent.
Ok.
Mais ça, par contre, j'en ai parlé à Noémie récemment, mais ouais, c'est un truc qui m'intéresserait, quoi. Une conférence, parler sur scène, parler d'un sujet précis, et puis transmettre quelque chose, quoi.
On te verra peut-être sur TEDx.
Ça serait bien.
Il y en a de plus en plus, des entrepreneurs et tout qui passent par là.
Il y en a un à Rennes, ouais. Okay. Mais toujours le but, toi, même les gens qui m'écrivent sur Instagram. Alors des fois, hier, j'ai posté une vidéo de mon matos. Évidemment, j'ai plein de questions sur le matos, après. Mais en fait, j'essaie de répondre. Alors, si c'est trop poussé, j'ai mes formations, évidemment. Mais à chaque fois, c'est un plaisir de répondre. Le but, c'est que tout le monde puisse s'épanouir et te... Moi, si hier, j'aurais pu poser des questions à Casey Neistat sur YouTube en disant « Mec, comment tu fais ?»
Ouais, c'est clair.
S'il m'avait répondu, j'aurais été content, quoi.
Ouais,
je me compare pas du tout, mais c'est juste que...
Mais je vois ce que tu veux dire.
Si on pose une question, je réponds, quoi.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est cool, t'es assez accessible, tu vois. Ça, c'est chouette.
Je suis comme le mec il y a un an. Hein.
Ouais, mais tu sais, dès que tu commences à faire du buzz sur les réseaux sociaux, tout le monde se dit, à partir du moment où tu fais du buzz...
Oui.
Où tu as des vues, tu as des bonnes stats, etc., etc., où tu as beaucoup de gens qui te suivent, ouais. Et compagnie, c'est très difficile. Parce que déjà, d'une, tu te dis, mon DM, il va être noyé.
Ouais.
Parce que le mec doit recevoir des dizaines par jour.
Malheureusement, la messagerie d'Instagram est très mal faite. Donc, si c'est le premier, des fois, il disparaît, il réapparaît, ouais. Un mois après, tu fais, pas possible.
Mais beaucoup, on se dit ça, ouais. Tu vois, ça part dans les DM et basta. Ou, c'est bon, il y a autre chose à faire, quoi. Genre, est-ce que vraiment ça mérite que je
m'envoie un message? Alors, par contre, si vous m'envoyez un message, écrivez. et pas un vocal d'entrée. Si je commence, ok, mais j'ai déjà reçu des vocaux de 2 minutes.
Ah, c'est long.
D'entrée. Et je fais, mais en fait, non, je suis avec mes enfants, là, et là, je vais l'oublier.
Ouais, bah ouais. Ouais.
Donc, mais pas écrit, avec, toujours avec grand plaisir. Et je voulais dire à toi, oui, le côté des abonnés, bah, en fait, moi, c'était surtout, je me suis rendu compte que les gens étaient normaux, même s'ils avaient beaucoup d'abonnés. C'est quand j'ai fait le podcast, du coup. Par exemple, j'avais écrit à Claudine, qui est une créatrice incroyable en Bretagne, qui a plus de 30 000 ou 40 000 abonnés, et je lui ai écrit. Et je me dis, bon, elle s'en fout, la meuf, c'est une star de la couture, etc. Direct, ah ouais, avec plaisir, Pierre-Alain et tout. En fait, non, juste les gens, ils sont normaux, ils ont juste beaucoup d'abonnés, quoi. C'est... Demain, tu fermes Instagram, c'est des gens comme tout le monde, quoi. Donc, ouais, non, sur ce côté-là, il n'y a pas de souci, je reste quand même le pied sur terre.
Non, mais c'est cool.
Ouais.
Si tu devais résumer en une phrase ta philosophie en tant que filmmaker, ce serait quoi? Ah, difficile.
Ouais.
Compliqué, complexe.
Pour le mariage, tu parles?
Ouais, bah même pour ouais. Toi qui te définis toi en tant que professionnel, créateur, ouais. Tout ça.
Alors pour le mariage, ça va être que ça vieillisse bien et que tout le monde puisse le regarder. Ben vraiment. Alors bien sûr, il faut que les mariés se retrouvent, mais les mariages, enfin j'ai jamais eu un retour en me disant ah, j'aime pas ça. Donc c'est que ça vieillisse bien, que si dans 40 ans tu veux le revoir, tu te dises ah ouais, putain, on a un beau film quoi. Et pour les réseaux, c'est que je m'amuse.
Ok,
amusez-vous.
Ça va, c'est cool.
Franchement, si tu te forces, ça te voit.
Ouais, c'est vrai.
Si t'es pas bon dans l'acting,
comme ça se voit.
La fameuse personne qui m'a copié. Mm. Si t'es pas bon dans l'acting, ça se voit. T'es gênant. Mm. Parce que t'es.
Ouais, c'est cringe.
Ouais, ouais parce ouais, que t'es. Tu donnes pas. En fait, c'est pas naturel, c'est pas toi. Mm. Donc voilà, s'amuser et puis même si on n'est pas à l'aise, bah tenter, se forcer.
Ouais, faut y aller.
Ne postez pas et puis regardez-vous. Ok, bah là je pourrais mieux faire là et refaire. Et ceux qui veulent se lancer sur les réseaux à parler, rassurez-vous, personne n'aime sa voix.
Ouais, non, ça, c'est vrai.
Et tu t'habitues à ta voix, mais personne n'aime sa voix.
Ah, c'est vrai. Ouais, en
donc,
fait,
amusez-vous.
Ouais. Faut se lancer, quoi.
Se lancer et s'amuser et surtout que ça. Si vous voulez écrire une vidéo sur Instagram, ça m'en conseille. Je ne m'as pas demandé de conseil. Si vous voulez faire, coupez Instagram parce que si t'es Instagram, tu vas ah c'est pas mal et ton cerveau a enregistré tout ce que tu vas regarder, et tu vas vouloir copier. Et tu vas dire que c'est plus facile. Donc coupez, une heure après, vous prenez un papier, un crayon et tout ce qui passe par la tête, vous le notez. Et un jour, vous trouverez un truc qui a de la valeur et qui vous représente vous.
En fait, je pense qu'il faut, moi, pour faire et avoir du mal à trouver moi mon style à moi sur les réseaux, il faut déjà faire ce qu'on aime, faire ce qu'on a envie, montrer ce qu'on a envie de montrer. Il faut effectivement jamais se forcer parce que ça se voit à fond.
Non.
Et ouais, il faut être vrai, je pense.
Il faut rester.
Aujourd'hui. Ouais. Maintenant, il y a quelques temps en arrière, c'était beaucoup le « m'as-tu vu ?»
Ouais.
Comme on dit, qui était mis en avant sur Instagram. Ouais. Maintenant, les gens, ce qu'ils aiment, c'est toi au naturel, en fait. Parce que tu parles de vraiment ce que tu as vécu, de la vraie vie, des choses au quotidien. C'est ça qui marche, quoi.
Et puis,
toi, avec les cheveux comme ça, tu vois, ou le matin, ou machin. Tu sais, il y en a plein et ça, marche, ouais. Ça marche du tonnerre. Hein.
Ouais.
Parce que les gens, ils s'identifient, en fait.
Bah,
en fait, il n'y a pas que moi qui ai les cheveux en pétard le matin. Bah non, il n'y a pas que toi.
Bah non, bah, ça, c'est un peu du personal branding, mais ouais, c'est ça. Et surtout, aussi, j'ai rencontré quelqu'un, ça m'a marqué, et je le répète beaucoup, que j'ai rencontré, qui m'a dit bah, j'ai vu tes vidéos, mais je ne te suis pas, parce que ça me rappelle que moi, je ne le fais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire,
ouais.
Mais que moi je peux le faire, mais je le fais pas. Mais en fait, parce que par exemple, je suis mal coiffé, etc. Non, on s'en fout. Personne sait comment t'es coiffé dans la vie. J'ai une vidéo qui a fait plus d'un million. Je suis en peignoir dans mon quartier. Donc, en fait,
on s'en fout.
En fait, ouais, mais clairement. Et donc voilà, s'amuser. Où est-ce que toi t'as de la valeur?
C'est ça.
Et ben, si j'ai de la valeur à transmettre, je sais pas des infos techniques, bah fais-le peut-être sous un autre format qui existe déjà, etc. Mm. Mais que ça nous, ouais, qu'on s'amuse à le faire quoi. Parce que si tu t'amuses pas, tu vas arrêter.
Ouais, c'est pas la peine. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Eh ben merci beaucoup,
bah, merci,
Pierre-Alain,
trop bien.
Pour cet échange. Ouais, c'était cool, hyper enrichissant.
Ah, c'est trop bien.
Pour ceux qui veulent découvrir ton travail et ta manière unique d'appliquer les codes du cinéma au film de mariage, rendez-vous sur ton site.
pierrealainmouton.fr.
Je l'ai noté, j'allais le dire.
Ah, bah,
non, mais c'est très bien.
Tu m'as regardé, je me dis, ça
non,
me
mais c'est très bien. Et sur Instagram, donc c'est pierrealain.mouton.
Voilà.
C'est ça. Donc n'hésitez pas. Et pour plonger dans l'univers des coulisses du mariage et de la vidéo, écoutez donc le podcast de Pierre-Alain, Coulisses du jour J, dispo via ton site, hein, j'ai vu.
Ouais,
il y a un encart sur ton site, c'est, bon, c'est nickel.
Ouais.
Et sur Spotify, j'ai vu qu'il est sur Spotify.
Et Apple Podcast, Apple Deezer.
Okay. Partout en fait, toutes les plateformes de podcast streaming.
Ouais, c'est okay, ça. Super. Coulisses avec un S du jour J.
Super, bah, moi je vous conseille d'aller voir. Et d'aller écouter, d'aller
écoutez,
voir.
Écoutez, ouais, je ne fais pas en vidéo.
Pourquoi je dis aller voir? Parce qu'on parle de vidéo en fait, c'est pour ça je pense. Eh ben, merci en tout cas d'avoir partagé cette émission avec nous. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission dans son intégralité sur radioondine.fr. Et on n'oublie pas, allez voir des films, débattez, kiffez et surtout n'oubliez pas le popcorn.
Radio Ondine, ensemble on partage la musique. Retrouvez tous nos programmes et actualités sur radioondine.fr. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Radio Ondine, c'est vous qui faites la différence.